La gouvernance selon Osiris. Réflexion sur l'ordre intérieur face au chaos du monde. Par Alain Carpati. Nous traversons une époque où les crises d'autorité et de légitimité se succèdent un peu partout dans le monde. Face à ce désordre apparent, où des dirigeants exercent un pouvoir qui semble disproportionné par rapport à leurs compétences réelles, une question fondamentale émerge. Que pouvons-nous faire en tant qu'individus au sein d'un tel chaos ? La mythologie égyptienne, à travers le récit millénaire d'Osiris, nous offre des clés de compréhension profonde qui transcendent les époques. Comme l'enseigne l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette sagesse ancienne nous invite à explorer comment la gouvernance extérieure ne peut être questionnée sans d'abord interroger notre propre gouvernance intérieure. Le mythe d'Osiris révèle que les quatre protagonistes que sont Osiris, Isis, Horus et Seth représentent en réalité quatre états d'être intérieurs de l'homme. Cette perspective nous permet de dépasser le simple spectacle de l'actualité pour accéder à une compréhension plus profonde des enjeux humains universels. Le mythe d'Osiris et de ses protagonistes. La tragédie primordiale. L'histoire commence avec Osiris, un roi authentique qui s'était souvenu de qui il était véritablement. Capable d'organiser une société avec justice et impartialité, Osiris incarnait la gouvernance légitime, celle où, dans les véritables victoires, il n'y a pas de vaincu. Son règne était bienfaisant et civilisateur, marqué par l'invention de l'agriculture et de la religion. Seth, son frère, représentait précisément l'antithèse d'Osiris. Bien qu'il ne fût pas destiné à régner par nature, Seth convoitait ardemment le pouvoir. Cette jalousie fraternelle, qui n'est pas sans rappeler l'histoire biblique de Caïn et Abel, culmine avec l'assassinat d'Osiris et le démembrement de son corps, dont les morceaux furent dispersés à travers l'Égypte. La résurrection par l'amour. Isis, l'épouse d'Osiris, incarne une force remarquable, celle qui refuse de se laisser dominer par la haine ou la colère. Sa détermination vise non pas la vengeance, mais la préservation de l'ordre divin face au chaos que Seth allait inévitablement instaurer. Folle d'amour et de douleur, Isis reconstitue patiemment le corps démembré d'Osiris, créant ainsi la première momie. Son amour triomphe enfin de la mort lorsqu'elle parvient à s'unir à Osiris et donner naissance à Horus. Se cachant dans les marécages du delta du Nil, elle élève Horus avec la conscience qu'il est l'héritier légitime de son père. Spirituellement, Isis représente le féminin sacré. Et en tant que telle, elle organise la résistance en préservant la lumière divine de la violence masculine. La lutte pour la légitimité. Une fois parvenu à l'âge adulte, Horus engage le combat contre son oncle, Seth, afin de récupérer le trône usurpé. Cette lutte violente se termine par le triomphe d'Horus qui rétablit l'ordre dynastique. La résolution du conflit varie selon les sources. Certaines évoquent un partage initial de l'Égypte, puis une attribution complète du royaume à Horus. D'autres décrivent Seth relégué au désert ou contraint d'accompagner le dieu solaire Ré. La philosophie éternelle du mythe. Les quatre constituants de l'être. Le génie de ce mythe réside dans sa dimension psychologique et spirituelle. Les quatre protagonistes représentent chacun des aspects fondamentaux de la nature humaine. Osiris symbolise notre capacité à nous souvenir de qui nous sommes véritablement, notre mémoire originelle. Cependant, cette partie de notre être a été en quelque sorte brisée, détruite, tuée et même découpée en morceaux, créant une confusion identitaire profonde. Isis, quant à elle, incarne la détermination et la volonté farouche de garder le cap indiqué par notre mémoire originelle. Elle représente le règne de la vie intérieure, orienté vers la préservation de ce qui est authentique et divin en nous. Horus correspond à notre capacité d'être fidèle à ce que nous sommes véritablement, particulièrement dans la cohérence de nos actions. Il questionne constamment notre légitimité. Dans quel aspect de mon existence suis-je légitime? Puis, dans quel domaine suis-je plutôt un usurpateur? Donc, pas véritablement au bon endroit. Seth, lui, représente notre conscience de nous-mêmes et notre vie intérieure. Paradoxalement, il est à la fois le gardien du seuil, nécessaire à l'incarnation de notre conscience, et un danger potentiel qui peut nous égarer dans un labyrinthe de confusion. Citation. Connais-toi toi-même. Inscription gravée sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. La question de la gouvernance intérieure. Le mythe d'Osiris pose une question cruciale pour notre époque. Comment pouvons-nous questionner l'idée même de la gouvernance si nous ne parvenons pas à interroger notre propre gouvernance intérieure? La cohérence exige que nous examinions nos propres modes de gouvernance personnelle avant de critiquer les pouvoirs extérieurs. Comment, en effet, peut-on aspirer à créer un monde meilleur sans avoir d'abord établi un ordre fonctionnel en soi-même, qui ne soit pas basé sur des formes de totalitarisme, dictature ou pseudo-démocratie, mais sur quelque chose de plus réel et profond? Conclusion. Le mythe d'Osiris offre des pistes de réflexion particulièrement pertinentes pour notre développement personnel et spirituel. Il nous enseigne que la véritable résistance au chaos extérieur commence avant tout par un travail intérieur de reconnaissance et d'intégration de nos différentes composantes psychiques. La démarche d'Isis nous montre qu'il est possible de refuser la haine et la colère tout en s'opposant fermement au désordre. Son exemple illustre une forme de résistance qui ne cherche pas la vengeance, mais la restauration de l'ordre authentique. Cette approche suggère que notre contribution la plus efficace au monde consiste peut-être à cultiver en nous-mêmes cette qualité de présence et d'action juste. Le questionnement d'Horus sur la légitimité devient un outil d'auto-examen constant. Dans quel domaine de notre existence sommes-nous en effet authentiques? Et où sommes-nous des usurpateurs? Questionnant ainsi notre juste place, dans tel emploi, telle relation, tel comportement, ce type de regard et de vigilance intérieure suggéré par Horus, donc en référence à l'état intérieur qu'il représente, vise à ce que chacun, chacune, puisse se libérer des identifications superficielles, afin de gagner en connexion avec sa véritable essence. Enfin, la maîtrise de Seth, donc de notre conscience, apparaît comme un enjeu majeur. Sans cette maîtrise, nous courons le danger de nous égarer dans de sombres labyrinthes intérieurs. Mais correctement orientée, cette conscience devient un allié et un gardien hors pair de nos capacités créatives, symbolisées par la lumière. Mais et moi. Afin de surmonter le stress lié à l'état du monde et à la confusion ambiante, il existe plusieurs approches efficaces mêlant techniques personnelles, activités collectives et ajustements cognitifs. Commençons d'abord par les techniques de gestion du stress. L'exercice physique, même modéré comme la marche, aide à réguler l'anxiété en offrant une pause aux ruminations. Marcher en conscience dans la nature permet de se reconnecter bien plus facilement au vivant, autant à l'extérieur qu'en soi. On peut lire à ce sujet l'excellent ouvrage d'Henri Di Toro intitulé « Marcher » aux éditions Le Mot et le Reste. Il y a ensuite la pratique de la respiration consciente ou la méditation qui permet de réduire la tension et d'apaiser rapidement l'esprit. Il existe des applications ou des outils digitaux dédiés à la gestion du stress, comme des méditations guidées ou des exercices de pleine conscience. Ensuite, il existe certains exercices pratiqués tout simplement, juste avec les yeux, là aussi de manière consciente. Ceux-ci s'avèrent particulièrement efficaces, malgré leur simplicité apparente. C'est le cas de l'exercice que proposait le maître Omram Mikhaïl Ivanov à ce sujet, et qui consistait, dans les grands traits, à fermer les yeux lentement et les garder fermés un moment, puis de les ouvrir à nouveau, là aussi lentement et délicatement. Passant ainsi du monde extérieur au monde intérieur, ce simple exercice permet en peu de temps d'observer et d'étudier notre état intérieur, ainsi que les changements subtils qui s'opèrent en nous. Enfin, il y a l'humour. Utiliser l'humour pour relativiser les événements. S'entourer de contenus décalés comme des films, des livres, des sketchs humoristiques, ou bien pratiquer l'autodérision permettent là aussi de prendre du recul. L'expression orale et le partage. S'exprimer à l'oral, comme par exemple le récit, la prise de parole, les échanges avec autrui, permettent de favoriser une meilleure gestion des émotions ainsi qu'une clarification des pensées. Enfin, se relier à des groupes de discussion ou participer à des ateliers contes, théâtre improvisé ou d'écriture permet d'explorer les difficultés tout en se soutenant mutuellement. Les stratégies cognitives. Limiter l'exposition aux médias anxiogènes et sélectionner des sources d'informations fiables aide à filtrer la masse de nouvelles stressantes qui ne cessent, tel un balai macabre, de se chasser l'une l'autre. Par ailleurs, écrire ses pensées ou ses ressentis permet d'ordonner la confusion intérieure et d'identifier les points sur lesquels il est possible d'agir. Trouver des moments pour se concentrer sur le présent via des activités créatives ou artistiques comme le travail manuel, la pratique musicale, l'écriture, le jeu éducatif, toutes ces pratiques contribuent elles aussi à restaurer l'attention et réduire l'impact du bruit ambiant. Enfin, en cas de mal-être persistant ou de surcharge émotionnelle, ne pas hésiter à consulter un professionnel, psychologue, sophrologue ou thérapeute. Ces solutions modulables selon les préférences personnelles peuvent être bien évidemment combinées afin de renforcer la résilience face au climat mondial anxiogène et la confusion générée. Point d'orgue et mot de fin. Le mythe d'Osiris nous rappelle ainsi que la transformation du monde commence par notre propre transformation intérieure, et que la plus grande révolution que nous puissions véritablement expérimenter consiste peut-être à retrouver à la fois notre sérénité et la conscience de qui nous sommes vraiment.